De retour en compagnie de Christiane Campagna, notre recherchiste, reporter, chroniqueuse et j'en passe. Et aujourd'hui, Christiane va nous parler de Mme Judy Heumann. Si vous êtes une personne qui vivait une situation d'handicap et que vous ne connaissez pas Mme Heumann, ben, d'une certaine façon, vous pouvez la remercier même si vous ne la connaissez pas parce qu'elle a fait beaucoup au cours des 30-40 dernières années en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, mais ça déborde chez nous pour l'accessibilité, pour le respect des droits des personnes en situation d'handicap. Alors, on va dresser un peu son portrait aujourd'hui, Mme Campagna.
Oui, c'est une activiste toujours en action, je dirais, toujours active sur différents fronts, notamment sur le front médiatique. On va voir qu'elle a occupé des postes importants. Et vers la fin, je vais vous parler d'un événement particulièrement marquant là, dans les débuts, disons, de sa carrière d'activiste. Donc, son nom complet, Judith Ellen Heumann, elle est née à Brooklyn en 1947.
Ça lui fait quoi, 74 ans aujourd'hui?
Oui.
Ouais, ben, le mois prochain.
Voilà. Le mois prochain. Et à l'âge de 18 mois, elle a eu la poliomyélite qui l'a laissée donc paralysée. Et c'est lors de son enfance, comme souvent c'est le cas pour plusieurs personnes en situation de handicap, c'est l'entrée à l'école qui font qu'on prend conscience de la différence. Et elle se voit alors refuser le droit d'aller à l'école dans son quartier parce qu'elle constitue un risque en cas d'incendie.
Ah, si, elle peut mettre le feu, comme on dit. Ou si jamais il y a le feu, elle ne pourra jamais sortir.
Voilà.
OK. Et parce que dans sa famille, c'est ses parents ne la traitaient pas comme étant différente.
C'est ça.
C'est au moment de rentrer à l'école qu'elle a eu le choc de comment la société la percevait.
Et c'est aux États-Unis, dans ce pays où on a toujours peur de se faire poursuivre, j'ai l'impression aussi que ça finit par jouer. Elle commence à s'intéresser sérieusement là, aux droits des personnes en situation de handicap pendant ses études d'orthophonie à l'Université de Long Island. Elle commence à organiser des rassemblements et des manifestations. Il faut dire qu'il y a l'époque aussi. Hein, donc, elle travaille aussi avec des gens qui manifestent dans divers domaines pour les droits civils. Mais elle commence déjà donc de demander l'accès à des salles de classe auxquelles elle n'avait pas accès. Le droit de vivre aussi dans les dortoirs de l'université qui était refusé aux étudiants en situation de handicap.
Encore une question d'incendie ou c'est simplement parce que...
Il y a de bonnes chances. C'était une forte médicalisation du handicap aussi.
Oui, oui.
Les premiers qui ont habité sur les sites des universités, on les envoyait vivre à l'hôpital qui était adjacent à l'université souvent. Après avoir obtenu ce diplôme à l'Université de Long Island en 69, elle s'en va faire sa maîtrise à Berkeley en Californie. Maîtrise qu'elle va obtenir en 75. C'est un séjour qui est très déterminant. C'est une université où il y a beaucoup de militantisme.
Ben, de toutes sortes, l'Université Berkeley, fin des années 60, début des années 70, là, c'est un creuset, je dirais, de la gauche américaine militante pour toutes sortes de questions.
Exactement.
Les droits des femmes, les droits civiques. Ainsi de suite, la guerre du Vietnam. Là, les gens de Berkeley étaient souvent dans la rue. Là,
oui, exactement. Et elle sera membre, donc, fondateur du Berkeley Center for Independent Living. Elle a siégé sur son conseil d'administration, d'ailleurs, pendant de 73 à 93. Le Independent Living, c'est qu'on appelle aussi vie autonome, c'est un mouvement mondial travaillant pour l'égalité des chances, l'autodétermination et le respect de soi. Ils ont un chapitre à Montréal, Vie Autonome Montréal, à qui on parle de temps à autre, là, ici à Canada.
Il y en a partout au Canada.
Voilà. Et elle s'est vue refuser son permis d'enseigner à New York parce que...
Pas pour le feu, quand même.
Tout à fait.
Oh non,
encore
c'est pas vrai.
C'est à croire que c'est une pyromane.
C'est vraiment fourre-tout, ça, comme prétexte ridicule, ça.
Ouais, sauf que là, elle est plus vieille et elle est plus militante. Alors... elle poursuit.
Ben oui.
Il y a un journal local qui a titré pour parler de cette cause-là en disant « Si vous avez eu la polio, vous pouvez être président, mais pas enseignant. »
Oui.
En référence à Franklin Delano Roosevelt.
Exact.
Et le juge est intervenu auprès de ce Board of Education de repenser leur position avant que ça aille plus loin. Ils commençaient à comprendre qu'ils n'allaient pas gagner le procès, alors l'affaire s'est résolue à l'amiable. Elle est ainsi devenue la première utilisatrice de fauteuils roulants, tout genre ou handicap confondu, à enseigner à New York. Parce qu'à New York, aux États-Unis, souvent c'est municipal. Hein,
les conseils scolaires,
voilà.
Tout ça. Exact.
En 82, elle a cofondé le World Institute on Disability, Il s'agit d'une organisation à but non lucratif qui travaille à l'intégration des personnes en situation de handicap dans leur communauté. De 1993 à 2001, elle travaille pour l'administration Clinton. Mm-hmm. Elle est secrétaire adjointe du Bureau de l'éducation spéciale et des services de réadaptation. Bon, c'est des traductions de titres, mm-hmm. des services de réadaptation au ministère de l'Éducation. Elle est également responsable de la mise en œuvre de la... Excusez-moi.
Oh, à vos souhaits.
J'ai lu des trop longs titres. Des
titres qui ne permettent pas de prendre une gorgée d'eau, voilà.
Oui, c'est ça. Elle est également responsable donc, de la mise en œuvre de la législation au niveau oui. national parce qu'en 1990 avait été votée cette loi dont on parle si souvent dans mes revues de presse, la
American
with Disability Act.
Oui, c'est ça. American with Disability Act, c'était l'administration précédente.
Oui, de Bush père.
Exact. Mais là, on arrive dans l'administration Clinton, c'est le moment de l'appliquer.
Exactement. Et elle va jouer un rôle fondamental dans ça. Bon, pendant l'administration Bush, elle n'est plus là, à la Maison-Blanche. Elle va être, mais elle va devenir la première conseillère du groupe de la Banque mondiale sur le handicap et le développement. Mm-hmm. Elle est consultante principale pour le partenariat mondial pour le handicap. Et là, Obama est élu, elle retourne dans l'administration. Elle est nommée conseillère spéciale pour les droits internationaux des personnes handicapées au département d'État américain de 2010 à 2017. Mm-hmm. Ensuite, retour plus sur le plan mondial. Ben, tout d'abord, elle va travailler à la Fondation Ford aussi pour faire progresser l'inclusion dans le travail de la Fondation. Elle écrira aussi à cette époque un article important sur la visibilité des personnes handicapées dans les médias. Mm-hmm. On parlera du manque de représentation des personnes devant et derrière la caméra.
Oui, et ça, c'est un sujet qui est maintenant d'actualité. C'est sûr qu'au début des années 80, c'était... Je dirais que c'était comme mettre un pied devant l'autre d'abord ou avancer étape par étape. Il fallait voir au moins à ce que les gens aient des droits d'éducation, de services, d'accessibilité au gouvernement. Mais là, maintenant que des progrès ont été réalisés de ce côté-là, la représentation dans les médias devient tout autre chose.
Bien, c'est ça. C'est parce qu'il y a le législatif, mais ensuite, c'est carrément la vision du handicap dans l'imaginaire collectif qu'il faut contribuer mm-hmm. à changer. Et pour ça, bien, il faut aussi non seulement voir des personnes en situation de handicap dans les médias, mais la façon dont on en parle, ne serait-ce que ne pas prendre un acteur en situation de handicap seulement quand l'intrigue parle d'un handicap.
Voilà.
Ne pas les appeler seulement comme experts sur les questions de handicap.
Non, c'est des personnes qui ont des idées sur toutes sortes d'autres sujets.
Voilà.
Oui, voilà.
Donc, c'est vraiment... Ce sont toutes des causes auxquelles Judy Human a contribué. Elle a joué un rôle important, donc, dans l'élaboration de lois majeures. Notamment le fameux article 504 et aussi plus tard là, l'American with Disability Act. Mais je voulais m'attarder au cas mm-hmm. de l'article 504 et particulièrement du sit-in de l'article 504, qui est un événement majeur, je dirais même dans le mouvement des droits en général
oui.
aux États-Unis. Mm-hmm. En 73, il y a une première protection fédérale des droits civils qui est promulguée, l'article 504 de la loi sur la réadaptation. Ça dit « Aucune personne handicapée par ailleurs qualifiée aux États-Unis ne pourra être exclue de la participation uniquement en raison de son handicap, se voir refuser les avantages ou être victime de discrimination dans le cadre d'un programme ou d'une activité mm-hmm. bénéficiant d'une aide financière fédérale. » Essentiellement, il est déclaré qu'aucun programme recevant des fonds fédéraux ne pourrait être discriminatoire mm-hmm. à l'égard d'une personne handicapée. C'est un premier pas vers l'ADA qui, lui, est pour aussi pour le monde privé, si on veut. Là,
oui,
là,
c'était, pour le monde du travail, là, entre autres.
Mmh. Là, c'était pour tout ce qui recevait des fonds fédéraux. Ça s'inspirait du libellé d'autres lois sur les droits mmh. civils concernant les femmes ou les minorités. Mais pour que... C'est beau adopter une loi, mais pour qu'elle devienne effective, il y a ensuite des règlements qui doivent être publiés mmh. par le gouvernement qui définissent plein de choses qui sont dans la loi. Qu'est-ce qu'une personne handicapée?
Oui,
qu'est-ce qu'être
ça.
Autrement oui. qualifiée? Qu'est-ce qui constitue une discrimination? Mm-hmm. Ce ne sera pas long, je perds mes pages.
Je mais parce que tout c'est sûr que c'est toujours comme ça. Il y a toujours une déclaration de principe
oui, c'est
là,
ça.
Qui est pleine de vertus, mais après ça, il faut... « The devil is in the details », comme on
exactement.
Dit dans la langue de Shakespeare.
Parce que pour que la loi soit appliquée, ça prenait tous ces règlements. Or, la loi est promulguée en 73, mais on est rendu en 77, aucun règlement n'est publié. Mm-hmm. Et là, malgré le fait que des avocats du Bureau des droits civils en aient rédigé, les aient envoyés au ministère en question, mm-hmm. un secrétariat dans le cas des États-Unis, mais ça ne débloque toujours pas. Alors, le 5 avril 1977, des manifestations sont organisées devant les bureaux du département dans diverses villes des États-Unis. Mais à San Francisco, une centaine de manifestants vont aller plus loin et ils entrent dans le bâtiment et commencent un sit-in qui va durer 28 jours.
Oh, oui.
Ce qui est en fait encore à ce jour la plus longue occupation non violente d'un bâtiment fédéral américain. Mais c'est pas n'importe quel sit-in non plus, c'est un sit-in fait par des personnes en situation de handicap. Mm-hmm. Il y a des personnes avec des handicaps moteurs, des handicaps visuels, différentes conditions. Donc, c'est pas une mince affaire de durer aussi longtemps. Il fallait se nourrir.
Il y avait des questions logistiques.
Ah oui? Oui,
tout à fait.
Il fallait réussir à dormir. Mm-hmm. Certains avaient besoin de soins particuliers, de médications qu'il a fallu leur apporter. Mais comme je disais, comme Berkeley et ses environs, tout ça, c'était un milieu très militant. Il y a eu comme une sorte de convergence du militantisme, si on veut, durant cet événement.
Une solidarité sociale envers cette cause-là devenait symbolique de beaucoup d'autres causes.
Ils ont, entre autres, obtenu de l'aide des Black Panthers. Ils sont allés leur porter des choses. Alors, c'est vraiment un événement marquant qui a peut-être propulsé ensuite le militantisme pour les années à venir, menant jusqu'à 90 à cette adoption-là de la loi plus général, où là aussi, on a vu des manifestations devant le Capitole, des personnes en situation de handicap descendre de leur fauteuil et grimper les marches du mieux qu'elles le pouvaient pour que finalement le Congrès adopte la loi.
Mm-hmm.
Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez, je ne saurais trop recommander le documentaire Crip Camp, j'en ai parlé souvent, il est sur Netflix.
Qui était en nomination pour un Oscar.
Et on y trouve des images d'archives de ce fameux sit-in. Mm-hmm. Si vous trouvez la partie camp au début, ça peut dépendre des gens. Là, certains la trouvent longue. Avancez, sautez à la partie plus militante, si on veut. Et puis, elle a publié son autobiographie qui s'appelle, elle a fait le jeu de mots, Being Human, An Unpainted Memoir of a Disability Rights Activist. Et la version audio est disponible aussi.
Mm-hmm.
Elle est lue par Ali Stroker, qui est une actrice et chanteuse en situation de handicap.
D'accord.
Qui a remporté un Tony Awards pour sa prestation dans la comédie musicale Oklahoma. Mm-hmm. J'ai trouvé intéressant qu'ils aient pensé à demander à une personne en situation de handicap pour lire la version audio du livre.
Puis, oui, ça commence à porter fruit, tout ça.
Voilà. Elle est inspirante dans le bon sens du terme, là, pas dans le sens de « ah, c'est donc cute », dans le sens de comme le sont toutes les figures marquantes du militantisme. Là.
Mm-hmm.
Vous pouvez aller sur YouTube, lire de différentes entrevues. Il y en avait une au Daily Show en mars 2020 aussi, qui était particulièrement intéressante. Alors, voilà, elle s'appelle Judy Human.
Ben, c'est une histoire qui... Il y a des personnages dans l'histoire dont on parle peu, au sujet desquels on n'érige peut-être pas de statut, là, où on ne donne pas le nom d'un pont, d'un truc comme ça. Mais peut-être que dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans, quand les droits des personnes en situation de handicap auront fait de réels progrès par rapport à la situation actuelle, on se retournera et on pourra reconnaître tout son mérite. C'est certain que dans une Amérique très politisée, je suis certain qu'il y a des gens qui trouvent à redire à tout ce qu'elle a fait. Mais elle a été un moteur, un moteur pour les droits des personnes en situation de handicap. Ben, merci beaucoup, Christiane, et on se reparle bientôt
très bientôt.
Mille et un sujets.